Merci Hélène. Donc voilà, à moi la tâche de brosser un petit tableau un petit peu théorique pour savoir de quoi on va parler durant le temps que nous allons passer ensemble. Donc on appelle trouble des conduites alimentaires toutes les conduites vis-à-vis de l'alimentation qui se font sur un mode compulsif. Compulsif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a perte de liberté par rapport à ce comportement alimentaire. Donc perte de liberté dans plusieurs modalités. Hein, une première modalité qui est la perte de liberté qui se traduit en termes de restriction. Donc c'est ce qu'on appelle l'anorexie, c'est-à-dire l'anorexie mentale, c'est une perte de liberté par rapport au fait de ne pas réussir à arrêter de s'empêcher de manger. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais vous comprenez quel est l'esprit. Donc c'est vraiment l'idée de ne savoir faire, de ne pas savoir faire autrement que de s'affamer, que de restreindre ses quantités alimentaires. Donc la première modalité qui est celle dont on parle le plus, hein, qui est la mieux connue, c'est la modalité de type anorexique. Il y a ensuite la modalité à l'autre extrémité du spectre, celle qu'on appelle l'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire c'est une modalité consistant à avoir du mal à s'empêcher de manger. Donc ce sont des personnes qui vont faire des compulsions, c'est-à-dire des grandes prises de quantité alimentaire bien au-delà des besoins sans pouvoir s'en empêcher, hein, souvent dans un mode assez automatique pour gérer par exemple de l'angoisse, pour gérer de l'ennui, donc des choses comme ça. Donc ça, c'est l'hyperphagie boulimique. Et puis entre les deux, on a une modalité plus difficile à repérer quand on est dans l'entourage, qui est ce qu'on appelle la boulimie, hein, la boulimie nerveuse, selon la terminologie médicale, qui est une modalité où il y a à la fois des compulsions alimentaires, c'est-à-dire des grandes prises de quantité de nourriture, de façon très répétée, hein, c'est pas une fois de temps en temps, ça peut être plusieurs fois par jour, ou en tout cas au moins plusieurs fois par semaine, mais pour garder un certain contrôle sur le poids, les personnes mettent en place des conduites de compensation, comme des vomissements, comme la prise de laxatifs, comme du sport à outrance, des heures et des heures de sport dans la journée pour essayer de compenser, l'apport calorique de la compulsion boulimique. Donc voilà, ce qui va caractériser le trouble alimentaire, c'est tous ces désordres de l'alimentation, mais sur un mode, c'est vraiment important de l'entendre, très compulsif avec une vraie perte de liberté et qui va s'installer dans le temps. Hein, c'est pas le régime qu'on fait pendant 3 jours qui nous fait nous sentir mieux et c'est pas le fait à un moment un petit peu difficile de sa vie. On a tous connu le Covid où parfois on a peut-être un peu trop mangé, un peu trop grignoté, eh bien pour gérer l'anxiété ou pour s'occuper quand on était coincé à la maison. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un trouble des conduites alimentaires. Ça peut être un petit désordre, mais qui se résout avec le temps. Les troubles des conduites alimentaires dont on parle aujourd'hui sont des conduites assez installées et pour lesquelles la personne a complètement perdu sa liberté. Ce qui veut dire, il y a plein d'autres signaux, bien sûr, mais une obsession de la nourriture, une obsession en prendre, en manger ou pas en manger, une obsession du poids pour les personnes qui sont plus dans le volet anorexique ou boulimique, des pertes de contrôle qui sont débordantes et qui peuvent conduire, si les troubles s'installent dans le temps, à une forme de désocialisation. Voilà. Qui est concerné? On pourrait dire que tout le monde peut être concerné. Hein, clairement, alors on a beaucoup parlé des jeunes femmes. C'est vrai qu'il y a une surreprésentation des jeunes femmes, voire même des jeunes ados dans les personnes qui souffrent de ces troubles. Mais en réalité, ça peut concerner à peu près tout le monde, puisque c'est une conduite qui vise, en général, on peut dire, juste pour le modéliser, à récupérer un équilibre. Quand on est confronté à une situation difficile, anxiogène, dans sa vie. Donc, ce qui va déclencher un trouble alimentaire, ça peut être par exemple un deuil, une mise au chômage, une maladie, mais c'est bien souvent le premier écueil qui est si difficile à surmonter, eh bien, c'est le passage de la puberté, de l'adolescence, avec toutes les questions qui sont posées. On était enfant, on faisait ce que nos parents nous disaient, et puis voilà, à un moment donné, on est confronté à ces questions de qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de qui je vais tomber amoureux, c'est quoi tomber amoureux, qu'est-ce qui se passe si mon amoureux veut pas de moi. Donc toutes ces questions extrêmement difficile quand on vient, enfin difficile, c'est des vrais, oui, c'est des vraies difficultés de vie, des difficultés normales, mais des difficultés de vie, quand on les rencontre pour la première fois, eh bien, ça peut vraiment faire décompenser si l'angoisse est trop forte, si on est trop peu équipé pour gérer cette épreuve, cette étape de vie, c'est pas une épreuve, mais cette étape de vie, ça peut décompenser vers un trouble alimentaire. Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'adolescents. On repère plutôt les femmes. Aujourd'hui, on se rend compte que probablement il y a des formes masculines un petit peu différentes, un petit peu spécifiques. Mais en tout cas, on a encore aujourd'hui dans la population qui vient, en tout cas, qui s'adresse aux associations et qui vient vers les systèmes de soins, une grande majorité de femmes. On estime, alors, pour les trois troubles confondus, c'est assez mal documenté. Bien sûr, les gens ne se promènent pas dans la rue en disant « moi, je suis boulimique, moi, je suis anorexique ». Donc, c'est assez difficile de mesurer exactement combien il y a de personnes, mais on considère qu'il y a au moins, c'est un minimum, 5% de la population entre 15 et 60 ans qui serait concernée par des troubles assez sévères. Donc, ça veut dire qu'on a à minima 1 million de personnes en France qui sont dans une souffrance sérieuse. Encore une fois, c'est pas le petit régime, c'est pas le petit complexe, c'est vraiment on est dans quelque chose qui parle d'une très grande souffrance. Donc, à minima, 1 million de personnes qui sont concernées. Et dont seule une minorité, probablement, est dépistée, détectée et prise en charge par des soins adéquats. Voilà pourquoi cette journée mondiale des TCA, parce qu'il y a besoin de faire connaître ces troubles, de faire connaître le fait qu'il existe des solutions pour se faire aider et qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pendant des années avec un haut degré d'angoisse, avec des obsessions qui gâchent la vie, qui empêchent de vivre sa vie. Voilà le sens de cette journée. Alors, les causes, on en parlera beaucoup avec Marc Filâtre en fin de journée, mais pour ceux qui n'auront pas le courage d'aller jusque-là ou qui n'auront pas la possibilité de nous suivre jusque-là, disons juste en deux mots que ce sont des troubles qui sont complexes, qui ont une origine qu'on dit multifactorielle, c'est-à-dire avec des facteurs d'environnement. Nous sommes dans une société qui ne nous aide pas par rapport à l'alimentation, qui nous donne des injonctions contradictoires en permanence. Sois gourmand, mange toutes ces bonnes choses, il y a toutes les odeurs dans la rue. Et puis en même temps, une injonction, surtout pour les femmes, d'avoir un corps mince, jeune, ferme, parfait. Voilà. Le culte de la jeunesse également, qui n'aide pas beaucoup. Donc il y a tout un contexte environnemental qui n'est pas aidant. On va trouver des facteurs familiaux, alors c'est souvent des ambiances, des climats, des familles, voilà, assez anxieuses, avec des problèmes parfois transgénérationnels, où voilà, on met un point d'honneur à faire face, à dire que tout va bien. Bon, voilà, ça c'est pour un ado qui se retrouve débordé par l'anxiété de l'adolescence que j'ai décrite il y a quelques minutes, ça peut rendre les choses un petit peu plus compliquées. On a des facteurs plus personnels, un manque d'estime de soi, des personnes qui sont un petit peu construites en étant bon élève, en faisant tout bien, en faisant tout plaisir aux parents, aux professeurs, aux coachs sportifs, et puis qui d'un coup se découvrent confrontés à des questions plus personnelles, plus identitaires, plus existentielles, et qui ne se sentent pas équipés pour y répondre. Et on a toujours à un moment donné un événement déclencheur, quelque chose qui vient faire décompenser une fragilité existante, qui peut être, donc c'est souvent l'adolescence, mais ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un échec scolaire, ça peut être un voyage à l'étranger où d'un coup la personne se sent extrêmement fragilisée. Bref, il y a quelque chose qui vient faire précipiter, si j'utilise le terme chimique, une difficulté préexistante. Bref, ça en fait une véritable urgence psychologique parce que quand la personne tombe dans ce trouble, c'est que l'on est vraiment dans une intensité de souffrance psychique très très grande. Quelques mots sur les risques. Alors les risques, bien sûr, il y a la dégradation de la condition physique qui est souvent la première chose à laquelle on pense, surtout quand on pense à l'anorexie. On voit ces jeunes femmes, parce que ce sont souvent des femmes très très amaigries, très très dénutries. Bien sûr, c'est un facteur de risque sérieux. Néanmoins, le facteur de risque de la personne boulimique qui a un poids normal, qu'on ne voit pas, qu'on repère beaucoup moins, est tout aussi grand, puisqu'on a, avec les conduites compensatoires, que ce soit des vomissements, que ce soit la prise de laxatifs ou de toute autre substance pour essayer de maîtriser la prise de poids, on va avoir des facteurs cardiovasculaires tout aussi important, voire plus que dans l'anorexie. Donc voilà, ce n'est pas du tout le facteur somatique est tout à fait réel et ils peuvent mettre, si les troubles s'installent dans la durée, en jeu le pronostic vital de la personne. On a également un risque de passage à l'acte suicidaire. Il est assez rare, évidemment, mais il faut tout de même le noter, notamment pour des personnes qui vont avoir une période anorexique et puis qui, à un moment donné, vont basculer dans la boulimie. Il y a quelque chose d'un vécu intérieur d'effondrement, d'échec, qui, sur des ados, en tout cas, est vraiment, doit nous alerter, parce que les personnes sont confrontées à une souffrance morale absolument intense. Nous avons également dans les risques un autre risque très important, et encore une fois, cette journée mondiale, elle est vraiment là pour ça, c'est que ces symptômes, ces troubles s'installent dans le temps, parce que d'abord, plus ça dure, plus le corps s'abîme, et puis plus la personne va se rétrécir. Quelqu'un qui est anorexique, qui est boulimique depuis 20 ans, voilà, il y a quelque chose qui risque, s'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas quelque chose qui vise à trouver d'autres façons de gérer un équilibre émotionnel ou identitaire, il y a quelque chose qui peut tendre à se rétrécir et c'est vraiment très 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 dommage parce que ce sont des grandes pertes de chance, des grandes pertes de potentiel chez des personnes qui, quand elles guérissent, se révèlent toujours extrêmement sensibles, extrêmement riches et que c'est ça qu'il est question de préserver à tout prix. Voilà. Donc, si on veut donner juste quelques chiffres, la moitié des personnes aujourd'hui vont guérir avec des prises en charge correctes. 25% ou un tiers des personnes qui sont atteintes un petit peu sévèrement ont vraiment aujourd'hui, faute de prise en charge, un risque de chronicisation des symptômes. Et puis, on a quand même 5 à 10% de décès, soit par dénutrition ou arrêt cardiaque chez les boulimiques, soit par suicide. Et ça en fait la première cause de mortalité psychiatrique chez les jeunes. Donc, c'est extrêmement sérieux et il faut les prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'on peut guérir des troubles alimentaires. On ne guérit pas forcément de la souffrance d'être humain, on ne guérit pas forcément de la difficulté de trouver son chemin et des moments difficiles dans la vie, mais il est absolument certain qu'on peut trouver d'autres façons de gérer son anxiété, ses angoisses existentielles, voire sa dépression, parfois ce sont des histoires de dépression, que en s'affamant ou en se gavant. Donc c'est vraiment, vraiment pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous connaissez des gens qui souffrent de ça ou si ça vous concerne, gardez espoir et surtout, surtout, faites-vous accompagner parce que ça n'est pas une question de volonté, ça n'est pas un caprice, ce sont des troubles sérieux qui demandent beaucoup de courage pour s'en sortir et qui demandent beaucoup de patience. Donc l'accompagnement, eh bien, c'est une façon de soutenir l'espoir, la patience. Et le courage. Voilà, je crois, tout ce que je voulais vous dire en petite introduction. C'est un petit peu long, mais ça permet de savoir de quoi on parle.
Très bien.
Voilà.